Introduction. Le don de prophétie a été manifesté au cours de la dispensation juive. S'il disparut pendant des siècles en raison de la corruption qui caractérisa la fin de l'ancienne alliance, il réapparut au moment où le Messie se présenta. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, était rempli du Saint-Esprit, et il prophétisait. Siméon, un homme juste et pieux, qui attendait la consolation d'Israël, vint au temple, poussé par l'Esprit. Il prophétisa que Jésus serait une lumière pour éclairer les nations, et la gloire d'Israël. Anne, une prophétesse, parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Et il n'y eut pas de plus grand prophète que Jean-Baptiste, qui fut choisi par Dieu pour présenter à Israël l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. L'ère chrétienne débuta par l'effusion de l'Esprit, et une grande variété de dons spirituels se manifesta parmi les croyants. Ces dons étaient si nombreux que Paul pouvait dire aux Corinthiens, « À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. À chaque membre d'Église, et non à chacun dans le monde, comme certains l'ont interprété. » Depuis la grande apostasie, ces dons se sont rarement manifestés. C'est sans doute la raison pour laquelle ceux qui se disent chrétiens croient généralement qu'ils étaient limités à la période de la primitive Église. Mais ne serait-ce pas plutôt à cause des erreurs et de l'incrédulité de l'Église que ces dons ont cessé? Et lorsque le peuple de Dieu reviendra à la foi de la primitive Église, comme cela se produira certainement au moment de la proclamation des commandements de Dieu et de la foi de Jésus, la pluie de l'arrière-saison renouvellera ses dons. Malgré les apostasies nombreuses de la dispensation juive, celle-ci s'ouvrit et se termina par des manifestations spéciales de l'Esprit de Dieu. Il serait donc déraisonnable de supposer que la dispensation chrétienne, qui est comme la lumière du soleil par rapport à l'ancienne dispensation que l'on peut comparer à celle de la lune, doit commencer dans la gloire et se terminer dans l'obscurité. Et puisqu'une œuvre spéciale de l'Esprit était nécessaire afin de préparer un peuple pour la première venue du Christ, combien plus en sera-t-il ainsi pour la seconde, surtout si les derniers jours doivent être plus périlleux que tous les précédents, alors que des faux prophètes se présenteront qui auront le pouvoir de faire de grands signes et des prodiges, au point de séduire, si c'était possible, même les élus. Nous lisons dans les Écritures, il, Jésus, leur dit, allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Les dons n'étaient pas confinés aux apôtres, mais s'étendaient à tous les croyants. Qui pouvait les recevoir? Ceux qui croyaient. Combien de temps? Aucune limite n'est fixée. La promesse accompagne la mission qui consiste à prêcher l'Évangile. Tout croyant doit en être bénéficiaire. Mais on objecte que cette aide était promise aux apôtres seulement et à ceux qui croiraient à leur prédication. Après avoir accompli leur mission, établi l'Évangile, ces dons cesseraient avec leur génération. Voyons si la mission du Sauveur se termina avec le premier siècle, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Que la prédication de l'Évangile ne se termine pas avec la primitive Église, nous en avons la preuve dans la promesse de Jésus, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Le Sauveur ne dit pas, « Je suis avec vous, apôtres, jusqu'à la fin du monde. » Il ne veut pas parler de la fin de la dispensation juive, car celle-ci finit à la croix. Il faut donc en conclure que la prédication de l'Évangile sera toujours accompagnée de la même puissance spirituelle. La mission des apôtres appartient à l'ère chrétienne et l'embrasse tout entière. En conséquence, si les dons ne se manifestèrent pas à cause de l'apostasie, ils revivront avec le réveil de la foi primitive. Dans, Il est dit que Dieu a établi dans l'Église certains dons spirituels. Puisqu'aucun texte n'abolit ces dons, ils sont donc toujours à la disposition des enfants de Dieu. Le chapitre qui les aurait abolis est le même qui a aboli le sabbat juif et institué le sabbat chrétien. C'est celui du ministère d'iniquité et de l'homme de péché. Mais on cite le passage suivant pour prouver que les dons doivent cesser, la charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Ce texte prédit, en effet, la fin des dons spirituels, ainsi que de la foi et de l'espérance. Mais quand? Au moment où ce qui est parfait sera instauré, quand nous ne verrons plus au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, quand nous verrons face à face. Le jour où tout sera parfait, où le juste sera rendu parfait, est encore dans le futur. Il est vrai que l'homme de péché, lorsqu'il est devenu homme, s'est débarrassé des choses de l'enfant, telles que les prophéties, les langues et la connaissance, ainsi que de la foi, de l'espérance et la charité des chrétiens primitifs. Mais il n'y a rien dans ce texte qui indique que Dieu voulait que les dons qu'il avait placés dans son Église cessassent avant que la foi et l'espérance disparaissent, c'est-à-dire que la gloire de l'immortalité éclipse les plus brillants déploiements de puissance spirituelle et de connaissance manifestés ici-bas. L'objection basée sur, avancée par quelques-uns, ne mérite pas qu'on s'y arrête. Si Paul, en disant que l'Écriture rend l'homme de Dieu parfait, et propre à toute bonne œuvre, entendait que rien dorénavant ne pourra plus être écrit par inspiration, pourquoi à ce moment même ajoutait-il quelque chose à l'Écriture? Pourquoi n'a-t-il pas laissé tomber la plume dès qu'il eut écrit cette phrase? Et pourquoi Jean, 30 ans plus tard, écrivit-il l'Apocalypse? Ce livre contient un autre texte qu'on cite pour prouver l'abolition des dons spirituels. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. En s'appuyant sur ce texte, on prétend que Dieu qui, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, a parlé à nos pères par les prophètes, et, au commencement de l'ère évangélique, par Jésus et les apôtres, a solennellement promis de ne plus jamais communiquer quelque chose à l'homme de cette manière. Donc, après cette date, toute prophétie serait fausse. Ce verset de l'Apocalypse, dit-on, met fin au canon de l'inspiration. S'il en était ainsi, on se demande alors pourquoi, après son retour de Patmos à Éphèse, Jean écrivit son évangile. Car il ajoutait ainsi quelque chose aux paroles de la prophétie écrite sur l'île de Patmos. De toute évidence ce texte, qui défend d'ajouter ou de retrancher quelque chose, ne se rapporte pas à tous les livres de la Bible, mais seulement à l'Apocalypse, tel que l'écrivit l'apôtre. Toutefois, nul n'a le droit d'ajouter quoi que ce soit à aucun livre écrit sous l'inspiration divine, ou d'en retrancher quelque chose. Jean, en écrivant l'Apocalypse, ajouta-t-il quelque chose aux prophéties du livre de Daniel? Pas le moins du monde. Un prophète ne saurait altérer la parole de Dieu. Mais les visions de Jean corroborent celles de Daniel, et jettent une lumière additionnelle sur les sujets traités dans ce livre. Jean conclut donc que le Seigneur ne s'est pas imposé à lui-même de garder le silence, mais qu'il a conservé la liberté de parler quand bon lui semble. Que le langage de mon cœur soit donc toujours celui-ci, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Ainsi, on ne saurait prouver par l'Écriture l'abolition des dons spirituels. Et puisque les portes de l'enfer n'ont pas prévalu contre l'Église, et que Dieu a encore un peuple sur la terre, nous pouvons nous attendre au développement des dons, en rapport avec le message du troisième ange, un message qui ramènera l'Église sur le terrain apostolique, et apportera au monde la lumière, non les ténèbres. Mais nous sommes avertis qu'il y aura dans les derniers jours des faux prophètes. C'est par la Bible que nous pourrons connaître la valeur de leur enseignement et savoir faire la distinction entre le vrai et le faux. Le grand critère, c'est la parole de Dieu, qui juge à la fois des prophéties et du caractère des prophètes. S'il ne devait pas y avoir de vraies prophéties au dernier jour, combien il aurait été plus facile de le dire, et d'éviter ainsi tous les dangers de séduction, plutôt que de signaler un moyen de les éprouver, comme s'il était possible qu'il y en ait de vraies aussi bien que des fausses. Dans on trouve une déclaration des plus intéressantes à cet égard, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Pourquoi dire, si l'on ne parle pas, s'il n'y avait pas de véritable manifestation spirituelle ou de prophétie au même moment? Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ces paroles font partie du sermon sur la montagne, et tous peuvent se rendre compte que ce discours de Jésus a une application générale à l'Église au cours des âges. Les faux prophètes se reconnaissent à leurs fruits. En d'autres termes, par leur valeur morale. Le seul moyen de savoir si leurs fruits sont bons ou mauvais, c'est la loi de Dieu. C'est ainsi que nous sommes amenés à la loi et au témoignage. Les vrais prophètes parleront non seulement selon cette parole, mais ils vivront selon cette parole. On ne saurait condamner celui qui parle et vit ainsi. Ce qui a toujours caractérisé les faux prophètes, ce sont leurs visions de paix. Ils disent, paix et sûreté, alors qu'une destruction soudaine fond sur eux. Les vrais prophètes réprouvent courageusement le péché. Ils annoncent la colère à venir. Les prédictions qui ne sont pas en harmonie avec les déclarations positives de l'Écriture doivent être rejetées. Ainsi, notre Sauveur fit savoir à ses disciples comment il reviendra. Lorsqu'il monta au ciel à leur vue, deux anges vinrent leur dire qu'il en reviendrait de même. C'est pourquoi il avait déclaré, « Si donc on vous dit, « Voici, il est dans le désert, n'y allez pas, voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. » Toute vraie prophétie sur ce point doit reconnaître que cette venue sera visible pour tous, il reviendra sur les nuées des cieux. Pourquoi Jésus ne dit-il pas? À ce moment-là, rejetez toute prophétie, car il ne doit plus y avoir de vrais prophètes. Dans, il est dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Dans un verset antérieur, nous apprenons que lorsque le Christ est monté au ciel, il a donné des dons aux hommes. Parmi ces dons, il y a les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Le but pour lequel ils ont été donnés était le perfectionnement des saints dans l'unité et la connaissance. Il en est qui sont pasteurs et docteurs aujourd'hui qui pensent que ces dons ont pleinement accompli leur but il y a 1900 ans, et par conséquent n'ont plus leur raison d'être. Pourquoi alors conservent-ils leur titre de pasteur et de docteur? Si la charge de prophète est par ce texte limitée à la primitive Église, il en doit être de même pour l'évangéliste, et toutes autres fonctions. Car il n'est fait aucune distinction. Arrêtons-nous un instant sur ce point. Tous ces dons ont été donnés pour le perfectionnement des saints, l'unité, la connaissance. C'est grâce à leur influence que l'Église primitive a joui pour un temps de l'unité, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme, est-il dit. Et il semble que c'est par une conséquence naturelle de cette unité que les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et qu'une grande grâce reposait sur eux tous. Comme on aimerait voir tout cela aujourd'hui. Mais l'apostasie avec son influence desséchante a terni la beauté de l'Église, et l'a revêtue de sac. La division et le désordre en ont été le résultat. Jamais il n'y eut une si grande diversité de croyances dans la chrétienté qu'aujourd'hui. Si les dons étaient nécessaires pour conserver l'unité dans la primitive Église, à combien plus forte raison sont-ils nécessaires aujourd'hui pour la restaurer? Et que ce soit le dessein de Dieu de ramener cette unité dans l'Église des derniers jours, cela ressort avec évidence des prophéties. Nous avons l'assurance que les sentinelles seront éveillées quand le Seigneur visitera de nouveau Sion. Au temps de la fin, nous est-il dit, les sages comprendront. Alors l'unité de la foi régnera parmi ceux que Dieu considère comme sages. Car ceux qui en réalité ont une juste compréhension des choses doivent nécessairement les comprendre de la même manière. Qu'est-ce qui doit opérer cette unité si ce ne sont les dons qui ont été donnés à cet effet? De toutes les considérations qui précèdent, il ressort que l'état parfait de l'Église ici prédit est encore dans le futur. En conséquence, ces dons n'ont pas encore accompli leur œuvre. La lettre aux Éphésiens fut écrite en 64, environ 2 ans avant que Paul écrive à Timothée que le temps de son départ approchait. Les germes de l'apostasie se développaient alors au sein de l'Église, car Paul avait écrit 10 ans plus tôt, dans sa seconde épître aux Thessaloniciens, « Le mystère de l'iniquité agit déjà ». Des loups ravisseurs allaient bientôt pénétrer dans le bercail, et ils n'épargneraient pas le troupeau. L'Église était loin à ce moment-là de réaliser l'unité dont parle le texte. Elle était sur le point d'être déchirée par des factions et désaxée par des divisions. L'apôtre ne l'ignorait pas. Ses regards se portaient sur la période qui suivra la grande apostasie, au moment du rassemblement du reste du peuple de Dieu, quand il dit « jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi ». Donc les dons octroyés à l'Église n'avaient pas encore fait leur temps, n'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Dans cette épître, l'apôtre parle de la seconde venue du Seigneur. Il décrit l'état du monde incrédule de cette époque, qui s'en va répétant, paix et sûreté, alors que le jour du Seigneur est sur le point de fondre sur eux et d'amener une destruction soudaine, comme un voleur dans la nuit. Il exhorte l'Église, en vue de ces choses, à veiller et à être sobre. Parmi les exhortations qui suivent se trouvent les paroles que nous avons citées, « N'éteignez pas l'esprit », etc. Certains peuvent penser que ces 3 versets sont totalement détachés les uns des autres quant au sens. Mais ils ont un rapport naturel dans l'ordre qui leur est assigné. La personne qui éteint l'esprit méprisera les prophéties, qui sont le fruit légitime de l'esprit. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. L'expression « examiner toutes choses » est limitée au sujet du discours. Les prophéties, et nous devons éprouver les esprits par le moyen donné par Dieu dans sa parole. Les séductions spirituelles et les fausses prophéties abondent aujourd'hui, et ce texte a une application toute spéciale ici. Mais remarquez que l'apôtre ne dit pas « rejetez toutes choses, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon ». Point après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, le salut sera sur la montagne de Sion, et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Cette prophétie de Joël, qui parle de l'effusion de l'Esprit au dernier jour, ne fut pas accomplie entièrement au début de la dispensation évangélique. Les prodiges dans les cieux et sur la terre dont parle ce texte sont évidemment les précurseurs du jour grand et terrible de l'Éternel. Bien que nous ayons eu déjà des signes, ce jour terrible est encore dans le futur. Il est vrai qu'on peut appeler toute la dispensation évangélique les derniers jours, mais dire que les 1900 ans qui sont dans le passé sont les derniers jours est une absurdité. Il nous amène au jour du Seigneur et à la délivrance du reste du peuple de Dieu. Car le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Ces réchappés, qui vivent au milieu des signes et des prodiges précédant le jour grand et terrible de l'Éternel, sont sans doute les restes de la postérité de la femme dont il est parlé dans la dernière phase de l'Église sur la terre. Le dragon, furieux contre la femme, s'en alla faire la guerre au reste de ses enfants, qui observent les commandements de Dieu, et qui gardent le témoignage de Jésus. Version synodale. Le reste de l'Église évangélique aura les dons. La guerre fera rage contre eux parce qu'ils gardent les commandements de Dieu et qu'ils ont le témoignage de Jésus. Dans, il est dit que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. L'ange dit, « Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. » Dans, nous avons la même pensée, « Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes. » La comparaison nous montre la force de l'expression, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Mais le témoignage de Jésus comprend tous les dons d'un seul et même esprit. Paul dit, « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Le témoignage du Christ a été confirmé dans l'Église de Corinthe. Et quel en fut le résultat? Il ne lui manquait aucun don. N'avons-nous pas raison de dire que lorsque le reste sera pleinement confirmé dans le témoignage de Jésus, il ne lui manquera aucun don, en attendant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ? R. F. Cottrell. Les dons spirituels. La chute de Satan. Satan était une fois un ange honoré du ciel, venant juste après le Christ. Son visage, comme celui des autres anges, avait la douceur et l'expression du bonheur. Son front était haut et large, signe d'une grande intelligence. Sa beauté était parfaite. Son attitude, noble et majestueuse. Mais lorsque Dieu dit à son Fils, « Faisons l'homme à notre image », Satan fut jaloux de Jésus. Il aurait aimé être consulté au sujet de la formation de l'homme. Et parce qu'il ne le fut pas, il fut rempli d'envie, de jalousie et de haine. Il désirait recevoir les plus grands honneurs dans le ciel auprès de Dieu. Jusqu'à ce moment-là, tout le ciel avait connu l'ordre, l'harmonie et une soumission parfaite au gouvernement de Dieu. S'insurger contre sa volonté et contre son ordre était le plus grand péché qui puisse se concevoir. Tout le ciel semblait en mouvement. Les anges étaient organisés en compagnie, et chaque division avait à sa tête un ange plus élevé qui commandait. Satan, ambitieux de gloire personnelle et ne voulant pas se soumettre à l'autorité de Jésus, faisait des insinuations contre le gouvernement de Dieu. Un certain nombre d'anges sympathisaient avec Satan et sa rébellion, alors que d'autres défendaient énergiquement l'honneur de Dieu et la sagesse qu'il avait manifestée en donnant de l'autorité à son Fils. Il y eut donc conflit entre les anges. Satan, secondé par ses acolytes, voulait réformer le gouvernement de Dieu. Il cherchait à pénétrer la sagesse insondable du Créateur et à deviner le dessein qu'il avait formé en exaltant Jésus, et en lui conférant un pouvoir illimité. Ils se révoltèrent contre l'autorité de Jésus. Toute l'armée céleste dut comparaître devant le Père et chacun fut jugé. Il fut décidé que Satan serait expulsé du ciel avec tous les anges qui s'étaient joints à lui. Il y eut alors guerre dans le ciel, et les anges s'y engagèrent. Satan espérait vaincre le Fils de Dieu et ceux qui lui étaient restés fidèles. Mais les bons anges prévalurent, et Satan fut chassé du ciel avec sa suite. Lorsque Satan se vit expulsé du ciel avec ceux qui étaient tombés avec lui, et comprit qu'il avait perdu pour toujours sa pureté et sa gloire, il en éprouva du regret et désira être réintégré au ciel. Il était disposé à reprendre sa place, ou n'importe quel autre qui lui fût assigné. Mais ce n'était pas possible, le ciel ne devait pas être remis en danger. Si Satan y avait été réintroduit, il aurait pu le contaminer tout entier. Car le péché avait pris naissance en lui, et il portait les germes de la rébellion. Satan et ceux qui le suivaient implorèrent avec larmes la faveur de Dieu. Mais leur péché, leur haine, leur envie, leur jalousie, avaient été si grands que Dieu ne pouvait l'effacer. Il fallait qu'il subsiste pour recevoir son châtiment final. Lorsque Satan eut compris qu'il ne lui restait aucune possibilité de retrouver la faveur divine, il donna libre cours à sa malice et à sa haine. Il conféra avec ses anges, et il élabora de nouveaux plans pour combattre le gouvernement de Dieu. Quand Adam et Ève furent placés dans le magnifique jardin d'Éden, Satan conçut le projet de les détruire. Si l'heureux couple était resté fidèle, il aurait été impossible de le priver de son bonheur. Satan ne pouvait exercer son pouvoir sur eux à moins qu'il n'eût auparavant désobéi à Dieu et perdu sa faveur. Il lui fallait imaginer quelques plans pour amener Adam et Ève à désobéir, afin qu'ils encourent la défaveur de Dieu et se placent sous l'influence directe de Satan et de ses anges. Il fut donc décidé que Satan revêtirait une autre forme et feindrait de s'intéresser à l'homme. Il lancerait des insinuations contre la véracité des déclarations de Dieu et ferait naître le doute dans le cœur de nos premiers parents. Il exciterait ensuite leur curiosité et les pousserait à jeter un regard indiscret sur les desseins insondables de Dieu, le péché même que Satan avait commis, et il les amènerait à argumenter contre les restrictions posées à propos de l'arbre de la connaissance.